Info rapide. On est de plus en plus nombreux et nombreuses en tant que freelance et entrepreneurs solo à ne plus en pouvoir des discours entrepreneuriaux qui prônent la croissance, les 6 chiffres annuels, le fait de toujours en faire plus et plus et plus. On cherche des alternatives, d'autres manières d'entrevoir l'aventure entrepreneuriale et le fait de développer nos business, mais malheureusement, la plupart des offres d'accompagnement, de coaching ou de formation sont encore uniquement dans un prisme croissance business. En ce moment, on est en train de faire, comme chaque année, notre période de recrutement pour les 30 personnes qui rejoindront la promo de notre programme Surf. Le programme Surf, c'est un programme d'accompagnement sur 2 ans, donc pensé pour le temps long, pour t'aider à passer un cap dans ton aventure entrepreneuriale et ton business freelance, mais pas seulement sur le business. Notre pédagogie, elle repose sur 3 piliers. Le business, bien sûr, nous sommes des entrepreneurs et on veut développer nos entreprises. Le développement personnel, ce qu'on préfère appeler nous l'épanouissement individuel, parce que dev perso, c'est un terme qui a une connotation de moins en moins sexy. Donc tout le travail sur toi, la personne, être épanoui dans ton travail. Et le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle la pensée systémique. C'est entrevoir le business en prenant en compte des sujets sociétaux hyper importants, comme l'écologie, le féminisme, la justice sociale, etc., etc. Cette liste est longue. Et donc, ce qu'on accompagne les gens à faire dans le programme Surf, c'est avancer dans leur processus et leurs projets entrepreneuriaux sans sacrifier leur épanouissement individuel et en prenant en compte les enjeux les plus importants de notre civilisation humaine. Si tu penses que ça peut te correspondre et que tu veux faire partie d'un groupe de gens qui te ressemblent pour un accompagnement sur le long terme avec 2 coachs à tes côtés, peut-être que le programme Surf est fait pour toi. Pour le savoir, je t'invite à te rendre sur surfenfreelance.com. Je répète, surfenfreelance.com, et tu peux prendre un appel avec nous et notre équipe pour en savoir un peu plus. Les portes sont ouvertes en ce moment. J'espère avoir l'honneur de te compter parmi les membres du groupe de cette année. Et sur ce, bonne écoute de l'épisode. Salut à toi, et bienvenue dans Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine, je t'accompagne pour t'aider à progresser et faire un pas de plus dans ton activité de freelance. Et cette semaine, on célèbre ensemble, un tout petit peu en avance, un très grand jour, puisque demain, le 1er mai 2020, le podcast souffle sa première bougie. Et oui, déjà 1 an et quelle année. Quelle année. Et du coup, pour célébrer cet événement, j'ai décidé d'inviter sur le podcast des amis qui fêtent également l'anniversaire de leur projet demain pour la fête du travail. Et pour ceux qui les connaissent, je parle donc de Jeanne Philippe et Ludovic Fouchan, qui sont tous les deux freelance, respectivement en stratégie social media et Facebook Ads, mais aussi et surtout digital nomade. Il y a donc 1 an, en même temps que ce podcast, ils ont lancé ensemble Nomad Pass, un média dédié au mode de vie digital nomade. Et leur ambition avec, c'était de documenter et partager leur aventure, de se lancer en freelance tout en voyageant. À l'époque, ils venaient donc d'atterrir à Bali, leur première destination, leur première expérience de nomade, et commençaient tout juste à développer leur activité d'indépendant. Dans cet épisode, donc, on revient sur cette année qu'ils ont vécue, et j'ai eu envie de les questionner sur la réalité de ce qu'était le mode de vie de digital nomade. Et vous verrez que c'est bien loin des clichés que l'on trouve quand on fait quelques recherches sur le web et qu'on voit des personnes avec les pieds dans le sable et leur ordinateur sur les genoux. On a donc beaucoup parlé de leur organisation, comment trouver l'équilibre entre voyage et travail, et aussi de l'impact potentiel sur leur activité, du fait de vivre dans ces endroits où le niveau de vie est bien moins élevé qu'en France, les implications que ça peut avoir sur notre état d'esprit, etc. Et aussi de ce qu'ils pensent peut-être les évolutions futures du fait de la crise sanitaire actuelle qui frappe le monde entier. C'était une discussion intéressante d'ailleurs sur ça. Bref, pour faire la mauvaise blague, c'est un épisode qui vous fera voyager. Sur ce, je vous laisse vous plonger dans cet échange et on se retrouve comme d'habitude à la fin. Bonne écoute. Bienvenue sur le podcast, John et Ludo.
Merci.
Merci beaucoup.
Je suis très content qu'on fasse cet épisode parce qu'il y a deux causes, enfin, deux caractères exceptionnels. C'est le premier épisode on est trois, où je ne suis pas en train d'interroger une seule personne. Et c'est aussi le premier épisode à distance qui sortira sur le podcast.
Donc, c'est voilà, génial.
Cause exceptionnelle avec le confinement, réponse avec un épisode exceptionnel. donc, bienvenue, je suis trop content de vous être là, que vous soyez là. Plein de sujets qu'on va voir aujourd'hui, mais je vous propose qu'on attaque par la question rituelle d'entrée, et vous êtes deux à y répondre du coup, c'est comment et pourquoi vous êtes devenu freelance. À qui le tour?
Alors, je crois que je vais commencer. comment et pourquoi je suis devenue freelance? C'est drôle d'ailleurs qu'on commence, je pense, par moi, parce que du coup, je suis un peu devenue freelance, je dirais, grâce à Ludo. Parce que je travaillais en agence avant, en agence de publicité, je travaillais chez Marcel. Je travaillais 6 ans là-bas en tant que chef de projet et je travaillais tous les jours avec des freelances et je m'étais jamais posé la question de me dire est-ce qu'un jour toi tu deviendras freelance ou pas. Et c'est Ludo qui m'a fait découvrir ça et qui m'a donné cette envie. Moi j'avais surtout un ras-le-bol en fait à mon boulot d'avoir des N+1, des N+2, qu'on me dise ce que je devais faire alors que je savais très bien ce que je devais faire et comment organiser mes journées. Je me voyais pas non plus évoluer dans les différents métiers qu'on pouvait me proposer en agence. Ça m'intéressait pas au-dessus de chef de projet, il y avait des chefs de groupe, ça m'intéressait pas. Je pouvais passer au pôle commercial, mais ça m'intéressait pas non plus. Et donc il y a eu une grosse remise en question et c'est comme ça que je me suis dit moi j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de liberté, j'ai besoin de voyager et de faire ce que j'aime et comment je peux le faire. C'est comme ça que ça s'est passé.
Trop bien. Et toi, Ludo?
Ouais, moi, ce sera pas aussi long, mais clairement, on se rejoint sur la notion de liberté. Et heureusement, vu que on est ensemble, ça aurait été compliqué qu'on n'ait pas forcément cette même vision. Mais il y a un autre point aussi que je trouvais intéressant, c'était d'essayer de voir comment aussi on pouvait décorréler nos revenus de notre temps de travail. Ça, c'était un enjeu qui m'intéressait beaucoup avec le fait d'être indépendant. Moi aussi, dans mon boulot, j'ai été amené à rencontrer beaucoup d'indépendants et ça me fascinait en fait cette façon de pouvoir décider de comment tu pouvais travailler, si tu avais envie de travailler beaucoup le matin et un peu moins l'après-midi, de travailler un petit peu le week-end ou non, et d'avoir aussi cette flexibilité sur ton emploi du temps et de dire que tu fais les choses parce que au final c'est toi qui as décidé et pas parce que ça rentrait dans ta fiche de poste ou que ou que ce soit qui est lié assez proprement au fait d'être salarié.
C'est intéressant parce que du coup c'est deux notions de flexibilité à la fois autour du temps et bien sûr le grand sujet dont on va parler le lieu géographique de où vous travaillez parce que vous êtes tous les deux nomades digitaux. Mais t'as touché un truc Jeanne qui est intéressant par rapport au statut de salarié, c'est j'ai l'impression que quand on est dans une boîte et je viens aussi du monde de l'agence donc je comprends un peu ce que t'as pu ressentir, c'est pour grandir et monter en grade ou en échelon ou progresser dans ces milieux-là, t'es obligé à un moment de prendre des postes plus managériaux, où tu gères des équipes, etc., etc. Et je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et du coup, quand tu te frottes à ce plafond, entre guillemets, comme t'as pu le vivre, du coup, chez Marcel, c'est bon, ok, qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai pas envie de faire ces plus grands postes. Et en même temps, si j'ai envie de progresser, avoir une meilleure REM, etc., je suis obligé de passer par là. Et je pense que du coup, dans le freelancing, on a une réponse qui est assez intéressante dans le fait que, il y a plein de manières différentes de progresser dans notre activité et d'augmenter son chiffre d'affaires, faire des choses différentes, et on n'est pas obligé de passer par ça. Est-ce que tu sens que ça aussi, ça fait un enjeu pour toi?
Ouais, moi, c'était pas vraiment le côté managérial qui me gênait, ça. Au contraire, j'ai toujours été plutôt à l'aise. C'était vraiment le côté... j'ai toujours eu envie de faire plein de choses sans qu'on me dise Par exemple, j'adore créer des choses. C'est pas pour autant que je suis graphiste ou que j'ai envie de faire que graphiste. J'ai envie de faire ça, mais en plus de plein de petites choses. C'est surtout ça. Et c'était aussi des postes que je trouvais stressants parce que je faisais pas, j'allais pas faire ce qui m'intéressait au final. Et donc, enfin voilà, j'avais l'impression que plus j'allais évoluer, plus j'allais être stressée, moins j'allais avoir de temps pour moi et pour faire ce que j'aime.
Ok, parce que du coup, c'est un peu ça que j'imagine tu retrouves dans le côté, à la fois dans ce que tu fais en free, parce que j'ai l'impression que tu intègres pas mal de compétences dans tes offres, mais aussi dans ce que vous faites ensemble sur le side project qui potentiellement un jour n'en sera plus un Nomad Paf, parce que du coup, vous touchez à beaucoup de choses. Mais juste avant qu'on parle de ça, parce que j'ai envie qu'on rentre un peu plus dans ce truc side project, je suis curieux parce que je vous connais, mais je ne crois pas avoir la réponse. Est-ce que vous êtes lancé en free avant de partir en mode nomade digital et vous aviez commencé avec des clients? Est-ce que vous avez tout fait en même temps? Est-ce que vous avez commencé à y réfléchir pendant vos CDI avant? C'était quoi les tout premiers pas, quoi?
Alors, du coup, peut-être pour revenir un peu sur le contexte, en gros, nous, on a eu l'idée de ce média alors qu'on était encore salarié. Donc, on est parti au Sri Lanka, on était en vacances et vers la fin du séjour, on a commencé à avoir ce fameux bad de retour au travail et par hasard, on arrive dans un café et là, on voit des personnes en train de bosser sur leur ordi. Et là, du coup, dans ma tête, je me dis, c'est sûr, c'est des nomades digitaux. Dans ma tête, c'était un truc qui existait pas du tout. Et le fait de les voir, ça a vachement matérialisé la chose. Et ensuite, ça finit par un peu devenir une obsession. Donc, du coup, c'est comme ça que l'idée est née. Et je suis parti de mon boulot. Et en gros, vu qu'on appréhendait un peu les mêmes sujets, donc je faisais du conseil en transformation digitale. Donc, on accompagnait des clients. Ouais, exactement. Clients, gros groupes, à travailler un peu comme les startups. Et plus on avançait, plus on arrivait sur des sujets de futur du travail. Donc, moi, j'ai fait intervenir des personnes qui étaient habilitées à parler de ce sujet, donc des personnes qui étaient notamment en remote. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à parler de ce sujet à ma hiérarchie. Et en fait, ça a fini par devenir un de mes premiers clients, justement, pour faire une étude sur ce sujet. Donc, en gros, c'est comme ça que moi, j'ai abordé mes premières missions freelance. Donc, avec mon ancien employeur.
Ok, mais du coup, tu étais encore en France à ce moment-là ou c'était quand vous étiez déjà parti à Bali?
Un peu des deux. Donc, j'avais déjà signé, entre guillemets, alors qu'on était encore en France. Et après, on est parti. En fait, la mission, du coup, m'a suivi là-bas.
Ok. Et toi, Jeanne, c'était plus tu quittes Marseille et vous partez direct à Bali ou tu avais déjà posé des briques de freelancing, etc.?
Alors moi, j'avais pas du tout posé de briques de freelancing. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai fini plus tard que Ludo, 2 mois plus tard, je crois. Donc, on allait partir. Enfin, en tout cas, on commençait à déménager et tout lâcher. Du coup, j'avais pas du tout posé ces briques-là. Je savais pas non plus ce que je voulais faire vraiment. Pour moi, c'était encore un peu le flou artistique. Je prépare le fait d'être freelance. Mais en même temps, il me faut du temps pour réfléchir à ce que je veux faire et quelle offre je veux apporter, etc.
Et parce que un des premiers aspects que je voulais voir avec vous, du coup, c'est effectivement, vous lancez dans cette aventure, vous partez à Bali avec l'histoire autour de se dire on va aller expérimenter concrètement les choses et documenter tout ça en créant le média qui est Nomad Pass. Mais comme vous le dites tous les deux, c'est quelque chose que vous faites à côté du fait d'être freelance, d'avoir vos propres clients, d'avoir vos propres missions. Et en faisant la petite préparation du podcast, Ludo, j'ai lu un moment dans une interview que tu as faite pour Postadem, tu disais que une de vos plus grosses difficultés, c'était de concilier le side project Nomad Pass avec le fait de concrètement devoir trouver des clients, vendre des missions, réussir à avoir un chiffre d'affaires et gagner votre vie, tout en développant ça. Du coup, je suis curieux de comment ça s'est concrétisé ce moment, comment vous avez organisé, à quel point on travaille sur l'un et l'autre, comment on fait pour avoir toute cette partie-là de gestion entre les deux, quoi.
Ouais, au début, franchement, c'était un peu YOLO, la gestion du side project, parce que, on avait juste l'idée de faire une vidéo par semaine, donc ça, c'était clair. Vu qu'on n'avait jamais vraiment fait ça, et au final, ça mettait, ça mettait un certain temps à préparer des vidéos, à filmer, et surtout t'as pas forcément l'habitude à faire le montage. Donc là, au début, je pense que ça nous prenait bien peut-être 2 jours par semaine. Donc du coup, on essayait de compenser. Parfois, on bossait le week-end sur d'autres sujets, mais c'est vrai qu'au début, c'est assez compliqué parce que t'as première chose que tu as envie de faire, c'est d'aller trouver des clients. Et donc, du coup, de te dire, j'ai lancé un side project, donc c'est pas le moment d'abandonner alors que je viens de commencer. Donc, c'est un peu difficile de faire un peu ce tour d'équilibriste au début. Mais là, pour le coup, maintenant, ça nous prend beaucoup moins de temps à faire une vidéo, à faire un montage, etc. Donc, maintenant, on a réussi à plus intégrer ça qu'avant où c'était un peu plus YOLO.
Comment vous avez trouvé, du coup, l'équilibre?
Je pense que c'est avec l'expérience, hein. Avec l'expérience, le fait de plus t'en fais, plus t'es bon, plus tu connais les mécanismes. Maintenant, ça devient, c'est quasi mécanique de faire enregistrer une vidéo, de l'écrire.
Mais même, je trouve que ça s'est fait assez naturellement. Au final, au début, ça nous paraissait prendre du temps, mais très vite, en fait, on a pris le pli en se disant, tous les mercredis, on sortira une vidéo. Tous les temps de jour, on fera des posts. Tous les lundis, on enverra une newsletter. Et du coup, très vite, en fait, on s'est fixé. Des objectifs et une régularité qui a fait que en fait on a trouvé nos marques très rapidement, moi je trouve. Enfin voilà, il n'y a pas eu de complications à part un peu au début où on savait pas trop combien de temps ça allait nous prendre réellement, quoi.
Ouais. Et c'est quoi qui a nourri du coup la décision de vous dire on fait les deux en même temps? J'imagine qu'il y a une part de être nomade digital, c'est avoir ses propres clients, donc on doit pouvoir le vivre concrètement pour pouvoir en parler, plutôt que de faire que le média à 100%. Mais je suis curieux de savoir qu'est-ce qui vous a poussé à vous dire, plutôt qu'on lance ça à 100% ou on fait que du freelancing et on lance plus tard, pourquoi les deux, c'était deux choses toutes nouvelles en plus pour tous les deux, pourquoi les deux choses nouvelles en même temps? Parce que vous êtes un peu fait du mal, quoi.
Alors, en fait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que nous, on voulait associer le début du lancement du média avec le début de notre activité, parce qu'on voulait documenter pour, en fait, prendre le parti de quelqu'un qui n'a jamais fait ça et qui puisse voir un peu notre processus. Parce que nous, ce qu'on remarquait, c'était surtout sur les personnes qui étaient anglophones, c'est que quelqu'un qui était nomade digital mais qui derrière avait déjà 2 ans de freelancing, on se reconnaissait pas vraiment dans son parcours, dans ce qu'il racontait. Donc c'est pour ça qu'on a voulu prendre le parti pris de créer les deux en parallèle, vraiment pour avoir ce côté évolution en même temps que évolution de notre activité de freelance en même temps que l'évolution du média.
Ouais, et puis au final, c'était répondre aux bonnes questions au bon moment. Les questions qu'on s'est posées le premier jour, on sait exactement c'est lesquelles, on sait exactement... Enfin, c'était vraiment répondre aux attentes aux nôtres et du coup, pouvoir documenter ça, quoi.
Ouais, parce qu'au final, j'avais relevé une autre phrase un peu sur ce que vous dites là. Je sais plus, je crois que c'est dans votre manifeste que vous disiez ça. Vous disiez qu'en gros... quand vous êtes devenu obsédé de ce sujet après ce voyage au Sri Lanka et que vous cherchiez tous ces contenus sur le nomadisme digital en ligne, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient faire un peu vendeur de rêve. Et c'est vrai que c'est un peu l'image qu'on peut avoir de manière caricaturale du nomade digital qui a Bali les pieds dans le sable, regardez, qui va se baigner à chaque pause Pomodoro. et la phrase qui était ressortie de votre manifeste, du coup, c'est de dire face à ça, vous aviez créé le média qui vous fallait au moment de vous lancer, mais qui n'existait pas à l'époque.
Ouais, on avait besoin. C'est exactement ça.
Et du coup, je suis curieux de savoir, à votre avis, dans cette divergence entre l'image nomade digital, vendeur de rêve, etc., est-ce que vous essayez de montrer qui sont les aspects avantages, inconvénients et dans votre podcast, il y avait cette discussion avantages, inconvénients. Mais je suis curieux de savoir, pour vous, c'est quoi les notions importantes à rappeler sur ce que c'est la réalité d'être nomade digital? C'est-à-dire les choses que vous aviez envie de partager par cette impulsion qui n'était pas dans les autres contenus.
Il y en a une première qui est assez évidente et pour laquelle je pense on se bat un peu tous les jours, c'est être nomade digital, c'est pas être dans son hamac ou sur la plage avec son ordinateur. Ça, à chaque fois que tu tapes nomade digital dans Google ou qu'il y a un article, c'est toujours illustré comme ça et en fait, ça nous rend assez ouf, j'avoue. C'est impossible de travailler de cette manière ou alors clairement, t'es pas en train de travailler pour moi. Oui, si t'es sur Facebook, ça va. Travailler comme ça, c'est pas possible. Il fait trop chaud, tu vois pas ton écran. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui sont vraiment pas possible. Donc, c'est la première qui nous paraît assez importante quand même à relever. Je sais pas si tu en as une autre.
Nous, on avait écrit un mail, je sais plus quand, parce qu'on écrit un mail du coup à notre communauté tous les lundis, et on disait que être nomade digital, en fait, ça devait pas être le premier objectif, mais en fait, le premier objectif, c'est d'être freelance ou autre, ou être entrepreneur, ça dépend de ce que tu fais, mais nous, on aborde plus les sujets de freelancing, mais ça doit être de développer en fait ton activité de freelance. Être nomade digital, ça, c'est une façon de travailler, mais c'est pas un objectif. Donc du coup, on disait, s'il y a des gens qui ont vraiment envie de voyager, bah, vaut mieux qu'ils mettent de l'argent de côté et qu'ils disent, bah, je veux faire un tour du monde. Au moins, il y aura pas cette friction en disant, bah, là, je suis censé travailler, mais en fait, j'ai envie de voyager, je suis un peu perdu. Et donc du coup, nous, en fait, on travaille plus qu'on voyage. Et donc du coup, il y a des gens qui ont peut-être tendance à penser que c'est l'inverse, et nous on veut un peu éduquer sur ce sujet en disant que en fait tu vas passer plus de temps à travailler que autre chose. Ok, on travaille dans un cadre qui est différent, qui est bien plus sympa, mais on travaille quand même.
Ouais. Même parce beaucoup. Que c'est vrai que ouais, j'imagine comme tout bon freelance quoi. Et ça me fait quoi? Je crois que c'est un truc que tu disais, Jeanne, toi, dans un autre contenu que j'ai lu, où tu disais qu'en gros, je crois que c'est dans l'autre podcast que vous avez fait avec Serial Entrepreneur, où tu disais qu'à un moment donné, tu te rendais compte que c'était bloquant pour vous d'être dans l'état d'esprit de « je mets de côté, je mets de côté, je mets de côté, je voyage, je mets de côté, je mets de côté, je mets de côté, je voyage », et faire ça que cinq semaines dans l'année, alors que votre envie, c'était de pouvoir cumuler les deux et faire les deux en même temps, en fait. Et du coup, c'est intéressant parce que effectivement, je pense qu'entre la perception qu'on peut avoir de se dire je vais travailler tout en voyageant, ça va être génial, et la réalité de ce que ça représente, il y a une grosse différence, quoi.
Ouais, il y a une grosse différence parce que, faut savoir s'organiser comme si t'étais. Enfin, c'est pareil qu'en France, en fait, du matin au soir, tu vas bosser. Alors, ok, le midi, tu peux sortir. Manger à l'extérieur, faire une petite balade sur la plage et ça te fait du bien, t'as quand même l'impression d'être un petit peu en vacances sur ces temps-là, sur tes temps off. Et puis le soir, quand t'as fini ta journée et que tu vas voir le sunset, t'as encore cette impression de vacances, mais t'as quand même la fatigue et le boulot qui s'est... t'as quand même bossé toute ta journée et tu sais que tu vas bosser toute la semaine. Donc nous, on s'organisait vraiment pour bosser toute la semaine et pouvoir profiter les week-ends, faire des excursions, voir un peu tout autour ce qu'il y avait à visiter.
Et du coup, ce qui vous plaît le plus, vous, dans tout ça, c'est plutôt, et j'imagine que ça change de personne en personne, mais c'est plutôt d'avoir ce cadre-là où tu peux sortir du café où tu travailles et être sur la plage ou aller voir le sunset le soir, ce qui n'est pas le cas quand on habite à Paris, par exemple. C'est ce cadre-là qui vous parle, ou plutôt le fait de changer d'environnement, parce que je sais que vous passez de l'un à l'autre aussi, que vous changez pas mal d'environnement. Donc c'est quoi pour vous l'aspect le plus important? Parce que vous savez, moi c'est une question que je me pose tout le temps, comment je fais pour aligner mon activité pro, ma vie de freelance, avec le mode de vie que j'ai envie d'avoir, et je suis curieux de ce que c'est le vôtre du coup.
Je sais pas si on a la même réponse.
Ouais, je sais pas. Moi, pour moi, je pense que c'est un peu des deux, parce que il faut savoir que nous, ce qu'on préconise, c'est quand tu changes d'environnement, c'est de rester à minima un mois là où tu es, parce que le cliché du nomade digital qui bouge toutes les semaines, c'est impossible, parce que même en termes de charge mentale, en termes d'organisation, c'est impossible de faire ça. Donc, on restait à minimum un mois, et deux mois, c'était le mieux, comme ça, on avait vraiment le temps de s'acclimater, et au final, d'avoir une routine comme on aurait pu avoir partout ailleurs. Mais aussi, nos destinations, c'était pas des hasards, parce que je pense que clairement, tu dois essayer un peu quand même de t'orienter vers des hubs de nomades digitaux où tu sais que tu vas pouvoir avoir des bonnes conditions de travail, et le fait de pouvoir rencontrer des personnes qui sont comme toi, qui ont le même état d'esprit. À Bali, il y avait énormément de coworking, c'était t'as l'impression que tout était fait pour bien bosser, mais moi aussi c'était un peu ce que je recherchais, ce côté entrepreneur, ce côté coworking, et j'avais envie un peu de découvrir ça dans un autre cadre et dans un autre environnement. Donc c'est un peu un mix des deux.
Ouais. Et toi, Jeanne, plus l'aspect voyage peut-être, parce que je sais que tu avais aussi ton... Il y a le côté voyage avec Loup Sauvage et tout.
Moi j'ai un peu cette soif de nouveauté tout le temps. C'est pour ça que je me suis dit qu'on allait peut-être pas répondre la même chose. J'ai Dans mon travail, j'ai des habitudes, mais dans ma vie quotidienne, je déteste être tout le temps au même endroit. Alors, en ce moment, c'est cadeau, hein. Mais je déteste bosser tout le temps dans le même coworking, par exemple, bosser tout le temps dans le même café, manger la même chose. Toutes ces choses-là, moi, ça m'exaspère. J'ai vraiment besoin de découvrir tout le temps de nouvelles choses, de nouveaux paysages, de nouvelles cultures. Et donc, c'est vraiment cette soif de voyage qui m'anime, je pense. Après, en effet, je rejoins Ludo sur ce côté. C'était hyper important pour nous de rester minimum un mois dans une destination. Et le must, c'était vraiment les 2 mois. Parce que même un mois, au final, on se rend vite compte que ça passe quand même super vite. Et que quand tu bosses, t'es vite fatigué à bouger de gauche à droite, prendre des avions ou devoir refaire tes valises. Et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc, voilà.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce que vous avez ? Est-ce qu'il y a des choses que concrètement vous avez dû faire évoluer au fur et à mesure du temps, à la fois dans votre organisation, mais peut-être aussi dans la manière dont vous regardez vos journées, parce que j'imagine que ça doit être hyper frustrant. T'arrives dans un endroit, t'as plein de choses à faire pour des clients, tu te retrouves à devoir travailler toute la journée alors que tu vas visiter. Enfin, qu'est-ce que vous avez concrètement mis en place que vous pensez être différent d'autres freelances pour pouvoir jouer sur les deux aspects? Est-ce que c'est une organisation différente? Est-ce qu'il y a des choses concrètes comme ça qui changent et que vous avez fait évoluer avec le temps?
Ouais, après, je pense que c'est un peu naturel. Ce qu'on s'était, je sais pas si on se l'est dit vraiment, mais en fait, on l'a fait. C'était qu'on se disait que le coucher de soleil, c'était un peu un impératif. Donc, le soir, c'était vers un temps de 18h. Donc, du coup, on se disait, on coupe à 18h et on va voir le coucher de soleil. On passe du bon temps, quitte à recommencer à bosser plus tard. Donc ça, on a raté quelques couchers de soleil quand il y avait des impératifs, mais ça faisait partie un peu du projet en disant on est là, faut qu'on profite à fond, parce que aussi tu peux tomber dans l'autre travers et te dire qu'en fait tu fais que bosser. Donc je pense qu'il faut trouver vraiment le juste milieu.
Ouais, c'était hyper important pour nous le soir de se dire, en effet, je crois qu'on se l'est même pas dit, mais tous les soirs, en gros, on rejoignait d'autres digital nomades et on allait boire un verre et regarder le coucher du soleil. Et ça nous faisait un bien fou, en fait, de vraiment couper la journée. Et après, retourner bosser, manger chez toi et bosser, c'est beaucoup plus facile, quoi.
Ouais, parce que, par exemple, je sais que ce que vous entendez, vous, dans le média et ce sur quoi vous communiquez, c'est aussi le travail en remote, donc pas forcément être dans un hub de nomades à Bali, mais aussi être au fin fond de la Bretagne dans une cabane juste chez toi, quoi. Ouais. Et moi, j'ai l'impression de... Là, pendant la période de confinement, je suis en Dordogne chez ma mère, donc c'est un cadre ultra tranquille, plein milieu de la campagne, pas de voisins, donc j'ai tout l'environnement qu'il me faut. Mais je me retrouve, alors que c'était pas vraiment prévu, à être hyper productif et avancer à fond, ce qui fait que je me fais des énormes journées pour en profiter. Et donc la semaine dernière, par exemple, j'ai fait 2 jours où j'ai commencé à bosser à 7h et j'ai fini à 19h et j'étais cramé, quoi, juste parce que j'avais pas de barrière autre que mon envie d'avancer pour m'arrêter. Et du coup, je pense que ça doit être faut se mettre des nouvelles contraintes, quoi, parce que c'est vrai que il y a le biais je bosse jamais, je fais juste chiller sur la plage, et il y a l'autre biais qui est comme je suis à distance, peut-être qu'il faut que je me prouve encore plus à mes clients, etc., et donc je fais que bosser.
Ouais. Après, je pense que quand t'es à l'étranger, t'as quand même c'est différent d'être confiné. Là, tu vois, nous c'est pareil, on peut ne pas s'arrêter et peut-être pas se rendre compte que il est déjà 20h, on s'est pas arrêté de bosser. Là, à l'étranger, je pense que inconsciemment, tu sais que t'as envie d'aller faire des choses après. Et donc, du coup, dans ta tête, tu sais que tu vas finir, par exemple, à 17h et que tu vas faire une pause de 17 à 18 ou, tu vois, de 17 à 20h et puis tu vas peut-être reprendre après. C'est là, peut-être, la différence avec le confinement où là, que tu finisses à 20h ou minuit, au final, t'avais pas grand chose d'autre à faire, quoi.
Ouais. Du coup, ce mode de vie-là, où vous restez globalement entre 1 et 3 mois dans chaque ville et ça passe de ville en ville, et peut-être aussi avec l'expérience que vous avez eue à rencontrer d'autres gens qui le font, est-ce que vous pensez que c'est... alors, je sais plus ce que c'est le mot français, mais en anglais, on dit sustainable, c'est-à-dire que ça peut durer dans le temps, sur le long terme. Est-ce que c'est vraiment un mode de vie, vous pensez, qu'on peut garder tout le temps et qui dépend de notre personnalité plus que d'autres choses? Ou est-ce que c'est peut-être aussi une question d'âge, et c'est genre le truc qu'on fait entre ses 20, 25 et 35, 40 ans, pour profiter à fond avant de se poser. Est-ce que vous avez vu des profils particuliers? Enfin, je suis curieux de savoir, est-ce que vous pensez que ça peut, genre, je peux être digital nomade toute ma carrière, par exemple?
Ouais, c'est une bonne question. Après, nous, on vient de démarrer, donc peut-être qu'on n'est pas les meilleures personnes pour t'en parler. Mais en tout cas, on a rencontré des personnes qui étaient parents, qui étaient avec leurs enfants, sauf qu'ils n'avaient pas forcément tendance à bouger tous les mois. Ils allaient rester peut-être un peu plus longtemps, voire six mois à un an. Mais des personnes qui bougent vraiment tous les mois, sans s'arrêter, sans se poser. Franchement, je ne sais pas si on en a rencontré.
On n'en a pas rencontré. Ça. Après, on a rencontré un couple qui avait d'abord commencé par faire un genre de tour du monde et puis après, qui s'est posé à Bali six mois. Et puis, au bout de trois mois, ils se sont rendus compte que... Non, pardon. Au bout de six mois, ils se sont rendus compte que en fait, ils voulaient rester un an à Bali, mais que en fait ils se sont rendu compte au bout de six mois qu'ils en avaient marre et qu'ils avaient encore cette soif de bouger, cette envie de voyager, et donc maintenant ils continuent de bouger un peu tous les 2-3 mois, quoi.
Du coup, ce que j'entends, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais c'est intéressant, c'est au final tu commences peut-être sur des petites périodes parce que t'as envie de voir plein de choses, et au fur et à mesure les périodes s'allongent jusqu'à même potentiellement rester à un endroit, quoi. C'est juste que au final t'as testé un peu où t'avais envie d'être et les gens se posent à un moment donné.
Ouais, clairement. Je pense que nous, on commence à le ressentir, c'est le fait de pas, au final, de pas avoir de chez toi. Je pense que ça, c'est un des plus gros inconvénients. On prend le cas où tu as, entre guillemets, tout quitté, que t'as laissé ton appartement. Et donc, ce qu'on voit émerger, ce qu'on voit apparaître, c'est souvent des gens qui prennent une base, en fait, dans un pays, ça peut être pas en France, par exemple, et qui peut-être gravitent autour de cette base. Donc, c'est peut-être un modèle, nous, sur lequel on va partir par la suite, parce que effectivement, c'est vrai que le fait de pas avoir de chez soi, ben, ça peut peser, soit sur ton travail, soit sur même ta, personnellement, sur le fait de en fait, de pas, tu te dis que bah, j'ai plus de chez moi, quoi. C'est assez, je pense que ça peut être assez perturbant aussi.
Ouais, t'as pas de base, surtout si tu restes pas longtemps, j'imagine que ça doit être déstabilisant, parce que c'est dur de garder ses rituels. Je sais que vous, je crois que vous, oui, vous êtes des advocates du rituel matinal aussi, c'est ça?
Ouais. En gros, ouais, moi je fais tout le temps une routine matinale et ça fait plus d'un an maintenant, et j'ai l'impression que c'est ce qui me permet de me raccrocher à une réalité, en disant que bah, j'arrive dans un nouvel endroit, je connais pas, et la seule chose que je peux maîtriser et que je connais, ben, ça va être ma routine. Donc, je me dis, dès le lendemain, je commence, et en fait, comme ça permet de garder les mécanismes que j'avais avant, et au final, de pas être déstabilisé par un nouvel endroit.
Ouais, c'est intéressant, parce que moi, au contraire, de bouger d'endroit, à chaque fois, ça me déstabilise complètement, quoi. Moi, j'ai besoin d'avoir un peu de stabilité pour réussir à la réancrer, et à chaque fois que je bouge, pff, ça fait tout chavirer, et j'ai besoin de temps pour la remettre, quoi. Du coup, c'est ça qui me frustre aussi. Quand je change d'endroit, ça bouscule mes habitudes. Ouais, c'est drôle de voir la différence. Mais j'avais une autre question sur ça aussi. On est sorti du truc side project, je reviendrai dessus après. Ouais. Mais j'ai une question aussi sur question de niveau de vie. Parce que forcément, bon, il y a le voyage qui peut potentiellement coûter cher, mais quand on est basé dans un endroit comme Bali, évidemment, ça coûte bien moins cher que d'être à Paris, par exemple, et d'avoir un loyer de 800 balles, de sortir, et le moindre déjeuner coûte 20 euros le midi, etc. Et du coup, je me demande, est-ce que vous ressentez potentiellement aussi moins de pression sur le fait de devoir performer sur votre chiffre d'affaires, choper toujours plus de clients, avancer toujours plus vite? Je me demandais si vous ressentiez moins de pression sur ce côté-là que ce qu'on peut ressentir quand on se lance à Paris et qu'il faut directement gagner ce qu'il faut pour payer son loyer, quoi.
Très bonne question. Moi, ça va peut-être paraître contre-intuitif, mais moi, je ressentais plus de pression, justement, en disant que j'avais besoin un peu de maintenir ce style de vie, et que même si sur le papier par mois ça va te coûter moins cher, mais tu te dis que si tu fais pas de chiffre d'affaires, en fait c'est retour chez tes parents, en fait c'est ça, c'est limite, c'est même pas un retour en France, c'est retour chez tes parents. Donc du coup, il y avait un peu le côté j'avais besoin de me dire qu'en fait il fallait que je fasse plus vraiment sur mon chiffre d'affaires, sur comment je bossais pour pouvoir maintenir en fait ce style de vie.
Toi, Jeanne, tu l'as vécu comment?
Moi, j'avoue que ça me... ça me rassurait un peu de me dire justement on va en Asie pour ce côté où je savais qu'on pourrait rebondir s'il y avait un souci en effet puisque la vie nous coûtait moins cher. Donc il y avait ce côté rassurant. Après ouais, c'est comme vient de dire Ludo quoi, il y avait aussi une envie forte de prouver que moi c'est plus ça, de prouver que notre choix de vie c'était un choix réfléchi et qu'on allait y arriver.
Ouais, et viable sur le long terme, quoi.
Ouais, je pense qu'il y avait ça aussi dans la réflexion, c'est que déjà de un, on portait un peu le mouvement avec le média, donc du coup je me disais bah il faut absolument que j'en fasse trois fois plus, même si au final j'ai fait ce qu'il fallait faire, mais je me disais bah il y a plein de gens qui pensent que t'es en vacances, bah montre-leur que t'es pas en vacances. C'était un peu ça, même si l'ego ne doit pas rentrer dans l'équation, bah il y avait un peu ce paramètre qui était à prendre en jeu.
Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant parce que quand je me suis lancé aussi, c'était pas mal du fait de mon entourage aussi. C'était ma directrice de master, ma directrice à l'agence où j'étais en alternance. Tout le monde m'avait dit genre mauvaise idée, fais quelques années en agence avant, tu feras ton réseau, etc. Mmh. Et du coup, j'ai grave ressenti ce truc de genre presque en mode ok, c'est un défi, je vais tous vous prouver que vous avez tort.
Moi j'adore cette force que ça crée.
Mais ouais, c'était hyper stimulant et en même temps ça m'a grillé parce que j'y suis allé beaucoup trop et j'ai beaucoup trop travaillé et je voyais plus mes potes et je sortais plus parce que j'étais devenu obsédé par ce truc de je dois prouver au monde que ça va fonctionner pour moi. Du coup c'est pour ça que je vous posais la question aussi, parce que je me demande à quel point est-ce que c'est différent quand t'as moins la pression financière, entre guillemets. Mais je pense que ce truc psychologique est presque plus puissant encore que la pression de payer un loyer.
Ouais, et il y a vraiment le côté, les gens pensent que t'es en vacances, et j'avais, même pour moi aussi, j'avais aussi ce besoin de me dire, non, en fait, t'es pas en vacances, donc du coup, je m'étais vraiment, j'avais vraiment envie de bien bosser. Une fois, je me souviens, je m'étais fait la remarque parce qu'on était, en gros, on avait une, pour sans faire de jaloux, on avait une villa avec piscine à Bali. Et une fois, je me suis dit, j'ai terminé la semaine et je me suis dit, mais je me suis pas baigné, j'ai trop bossé, je me suis pas baigné. Et je me suis fait cette remarque alors que la piscine, elle est
à un mètre,
elle est là, quoi. Et ça m'a trop marqué. Et là, je me suis dit, ok, ouais, faut que tu trouves le juste milieu, même si, ok, faut beaucoup bosser, mais n'oublie pas que quand tu seras à Paris dans 7 mois, eh bien, la piscine, tu vas la regretter.
Ouais, c'est clair, parce que il y a sûrement une part qui se dit, si je suis là, autant en profiter.
Ouais, surtout si tu prends un bain de 10 minutes, ça va, quoi.
Ouais, ça doit rendre assez schizophrène, je pense. Hein.
Enfin, ouais, moi, je pense que...
c'est drôle. Je vais jouer à l'avocat du diable. J'ai envie de challenger un peu. C'est une question que je m'étais préparée parce que je me demande dans quelle mesure, et pour avoir vu différents échanges avec d'autres personnes aussi, et ça peut être, je suis très curieux de votre expérience par rapport aux gens que vous connaissez qui sont dans ce modèle. Je me demande dans quelle mesure aussi, est-ce que le fait d'avoir moins de coûts de vie, d'aller faire ces endroits où le mode de vie il est beaucoup moins cher, mais de la même manière beaucoup plus luxueux entre guillemets qu'en France par exemple, est-ce que c'est pas aussi une manière qui peut nous complaire dans le fait de moins se pousser pour développer son activité et qui peut à terme devenir précarisante, dans le sens où pour être hyper transparent avec vous, moi en ce moment j'ai beaucoup de réflexions sur ok, c'est très bien Thomas, t'arrives à faire rentrer du chiffre d'affaires tous les mois, t'as le mode de vie que tu veux, etc. Mais qu'est-ce que tu prépares sur le long terme, notamment du côté retraite et ainsi de suite? Je me suis dit que c'était une conversation intéressante à avoir. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des nomades digitaux qui se disent, ouais, j'ai un mode de vie tellement ouf, pas besoin de me sécuriser, etc. et qui, du coup, se rendent précaires sur le long terme sans vraiment s'en rendre compte?
Ouais, je comprends tout à fait ta réflexion. Et j'avais discuté avec une personne qui s'occupe d'un co-living à Bali, donc à Ubud, pour ceux qui connaissent, et il m'avait fait part qu'il avait rencontré pas mal de jeunes qui étaient dans ce cas et qui en fait ont voulu tenter l'aventure, soit parce qu'ils ont vu quelque chose sur les réseaux sociaux, et dès qu'ils ont pris un premier mur Bon, ils se sont rendus compte au bout de 2 mois qu'ils n'arrivaient pas forcément à avancer dans leur activité. Et du coup, ils sont rentrés entre guillemets chez papa maman. C'est ce qu'ils m'avaient expliqué. Et du coup, ils disaient que c'était un peu le travers de en fait t'intéresser qu'au lifestyle et qu'au final derrière t'as pas forcément les reins assez solides pour faire face soit à des phases d'activité intenses où tu dois vraiment chercher tes clients, aller les convaincre, aller vendre tes offres. Et je pense que ouais, il peut avoir un biais là-dessus où on se dit bah en fait ça va être tranquille, le coût de la vie est pas cher et au final du coup je vis à peine de mon activité.
Ouais, c'est hyper intéressant parce que je me dis aussi tu vois, il y a le cas où tu te lances parce que tu trouves ça sexy et ça marche pas. Mais je pense, et je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus aussi, c'est est-ce que vous pensez que c'est possible aussi d'avoir le cas, je me lance, ça marche un peu, et comme je suis dans un pays où les niveaux de vie sont complètement différents, j'ai l'impression que ça marche hyper bien, mais en fait, si je reviens dans mon autre contexte de vie, genre en France par exemple, j'ai pas fait les choses bien, je me suis pricé à genre 60 euros la journée, j'en sais rien, je dis tout et n'importe quoi, mais est-ce que vous pensez que ça c'est un risque aussi?
Ouais, je pense que c'est un risque. Après, pour moi, ça peut être un choix aussi. Il y a des gens qui peut-être ont besoin de vivre avec le minimum vital et ont besoin peut-être d'avoir tous les après-midi de dispo pour profiter de l'endroit où ils sont. En effet, si demain ils doivent revenir vivre à Paris, ça va être hyper compliqué. Après, si c'est un choix de vie en soi, chacun fait comme il veut, quoi. Mais oui, je pense que c'est difficile de peut-être démarrer un exemple en Asie parce que le coût de la vie est bas et puis en effet de pas se vendre assez cher si après derrière tu sais que tu dois revenir en France et que tu connais pas vraiment ta valeur véritable, quoi.
Ouais, mais je pense que c'est pour ça que votre exemple est intéressant, de vous lancer en même temps d'aller là-bas, parce que je pense que d'autres personnes qui se lancent dans ce genre de contexte, tu vois, si t'as pas l'élément de comparaison avec ce que ça peut être en France ou dans d'autres pays européens aussi, hein,
mais après,
sans comparaison, c'est difficile, quoi.
Ouais, mais je pense qu'il y a un biais. En fait, je pense que le fait de dire, ben, je vais plus ou moins tout quitter, je vais partir à X kilomètres de mon pays, de ma famille. Bah en fait, ça te crée un peu un feu sacré qui te donne envie de vachement bosser. Et donc, du coup, je pense que ça annule un peu le côté tir au flanc. Je trouverais ça pas cohérent de dire bah, je vais vraiment tout quitter et au final, je fais rien. Peut-être que ça arrive, mais en tout cas, dans les personnes qu'on a vues, on n'a pas rencontré. Tout le monde est... Franchement, je pense que tout le monde a un side project. Donc, si t'as pas de side project, genre, t'es l'exception. Tout le monde a envie de bosser sur plein de projets, etc. Et je pense que c'est un trait commun à pas mal de digital nomades qu'on a pu rencontrer. C'est vraiment cette envie de pousser des projets, bosser et justement peut-être que tout le monde a aussi ça à ce complexe en voulant peut-être montrer aux autres qu'en fait ils sont pas en vacances et du coup ils font ce pas de plus que d'autres personnes n'auraient pas fait.
Ouais, donc de se dépasser en fait pour vraiment y aller à fond et développer plein de trucs. C'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais lu ça aussi dans une de vos interviews que tout le monde était un peu en mode multifonction, side project, etc. Est-ce que vous avez l'impression que... Parce que, enfin, en fait, la question que j'ai derrière, c'est... On entend souvent... quand on parle de sujet du side project, que c'est beaucoup plus fluide et c'est une très bonne pratique de lancer des choses en mode side project avant d'en faire des projets à plein temps. Et du coup, je suis curieux de savoir si vous aussi, vous défendez à fond cette vision ou si avec l'expérience et les gens vous voyez, est-ce que c'est pas aussi un frein au fait de les développer? Enfin voilà quoi, c'est les questions qui reviennent souvent. Hein. C'est est-ce que j'y vais à fond? Est-ce que je fais un peu sur le côté et comment je le développe petit à petit? C'est quoi votre vision de la chose?
Ouais, c'est un bon point. Je pense que quand tu deviens indépendant, t'as la notion de vraiment d'indépendance qui résonne et qu'on le veuille ou non et malgré ce qu'on peut entendre, quand t'es freelance, en fait, t'es pas 100% indépendant parce que tu dépends de ton client. Donc le fait d'avoir un side project, t'as un peu le côté, tu dis, en fait, ça c'est vraiment la chose que je fais pour moi et ça dépend de personne. Du coup, ça te quand tu arrives à caler un side project dans ta semaine, ben ça te permet de rajouter cette couche d'indépendance que peut-être tu avais perdu entre guillemets en étant freelance. Et en fait, je pense que pouvoir associer un side project au fait d'être freelance, ça va peut-être te pousser plus dans tes deux activités.
Et Jeanne, toi, tu gères comment, par exemple, parce que je sais que, alors je sais pas si c'est tous les deux ou si c'est plus toi, Jeanne, mais il y a aussi l'Instagram voyage ou les photos de voyage, etc., que vous avez en plus. Je sais qu'il y a un compte Instagram, je sais pas s'il y a plus derrière, mais comment vous gérez d'avoir ça en plus? Est-ce qu'il y a un objectif professionnel derrière? Est-ce que c'est juste pour le kiff? Quel degré vous voyez mettre entre un side project plus pro et plus kiff?
Ouais, on a un compte qu'on a lancé il y a, je sais même pas combien d'années, il y a longtemps, qui était au départ juste un compte Instagram de nous deux, parce qu'on est passionnés de photos et de vidéos de nos voyages, de nos petits voyages quand on était salariés, donc de nos 5 semaines de congés payés par an. Donc ça c'était environ 2 voyages par an maximum. Ce compte, en fait, il a grossi assez naturellement, sans but derrière. Le seul but, c'était de partager un peu ce qu'on vivait en voyage et notre passion pour la photo, quoi. Il n'y a pas de business derrière. Toujours quand tu montes un projet et que en effet tu commences à avoir un peu de monde qui le suit, forcément tu te poses un peu la question de te dire est-ce que je peux en faire quelque chose. Donc voilà, donc ça fait partie des questions qu'on se pose. À date, ce compte de voyage, j'ai pas forcément envie pour moi ça doit rester très naturel et pas du tout, je pense qu'on perdrait les gens à se dire demain on vend quelque chose dessus. Ouais. J'ai pas envie que ça devienne ça. Et
c'est quoi du coup par rapport à ça, mais aussi Nomad Pass et vos activités de freelance, c'est quoi du coup votre vision et le mode de vie d'ailleurs, hein, mais votre vision à plus long terme, c'est-à-dire si vous projetez dans 10 ans. Vous voyagez encore, vous êtes à 100% sur le média, vous êtes encore freelance à côté, vous avez de la clarté sur la direction que ça prend tout ça, ou pour l'instant
on a un rétro-planning, hein.
Ouais, alors là, à part se dire qu'on allait faire une vidéo par semaine, pour l'instant on n'avait pas d'autres projets. Après évidemment, vu qu'on a une communauté qui nous suit, le fait de pouvoir les aider à travers divers formats, dont des formats plus liés autour de l'éducation, dont on avait déjà parlé dans un autre podcast. Donc ça, c'est des sujets qui vont arriver bientôt. Mais en vrai, dans 10 ans, est-ce qu'on voyagera encore? Quelle tournure aura pris le média? Ça reste ultra flou. Et je pense que c'est tant mieux. C'est pas un projet qui a vocation à devenir un truc incroyable. Enfin, pour l'instant, nous, l'idée, c'est d'aider le plus de gens possible, et on n'a pas forcément bâti des plans sur la comète sur le sujet pour l'instant.
Ouais.
Moi, dans 10 ans, je m'imagine bien qu'on soit toujours digital nomade, mais après, je me dis déjà, dans 1 an, je sais même pas où est-ce qu'on est et ce qu'on fera.
C'est ça, ça se trouve, on ouvrira un lieu en Asie. Franchement, il y a plein de trucs qui sont en tête, mais on les a pas écrits.
Ouais, on a plein d'idées, mais c'est vrai que c'est pas planifié. Il y a pas, pour l'instant, il y a pas d'objectif dans les 10 prochaines années de se dire on doit faire ça, quoi.
Ouais. Parce que la raison pour laquelle je donne de manière très arbitraire les 10 ans, c'est aussi que dans votre vidéo d'introduction sur YouTube, il y a un moment où vous dites que pour vous, le nomadisme digital et le télétravail vont bouleverser nos façons de travailler dans les 10 prochaines années, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles vous allez explorer ces sujets-là. Mmh. Et le sujet sur lequel j'avais envie de graviter avant qu'on aille sur les questions rituelles de fin de podcast, c'est avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment, le confinement, la pandémie qui touche le monde entier, j'avais envie qu'on sans bien sûr avoir aucune idée de ce qui se passera pour de vrai, parce qu'on peut pas savoir, mais ça me traversait l'esprit de me demander, est-ce que vous pensez que ce qui se passe en ce moment aura un impact sur le fait que des gens, là, il y avait de plus en plus de personnes qui prenaient ce mode de vie. Peut-être que ça va freiner les gens dans le futur. Je sais que, par exemple, j'avais deux amis, Alexis et Valentin, qui étaient respectivement à Bali et au Vietnam en train d'expérimenter ça, qui ont été forcés de rentrer. Potentiellement que l'impact du virus, enfin l'impact mondial du virus vient en fait aussi du fait que tout le monde voyage à droite à gauche et du coup ça a pu l'emmener à droite à gauche et faire que un pays puis l'autre soit infecté. Enfin voilà, à votre avis, est-ce que cette pandémie va changer quelque chose dans la direction que prenait futur du travail, nomadisme digital, remote work, etc. Et qu'est-ce que ça va changer si vous avez un avis sur la question?
Ouais, peut-être. Je pense que le remote, ça c'est sûr qu'il y aura un gros impact très rapidement et ça va. Je pense que ça va se dessiner dans le paysage francophone. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont à Paris parce qu'il y a du boulot et au final ils viennent d'ailleurs. Donc je pense que naturellement il y aura un retour vers les régions de base à minima, peut-être dans des boîtes. Mmh. J'ai vu passer des posts sur LinkedIn où un CEO d'une boîte disait que peut-être que tous les vendredis, il allait faire télétravail obligatoire, entre guillemets, pour ses employés. Donc, peut-être qu'il y a des gens qui vont se mettre à déménager, venir à Paris que quelques temps. Après, pour la partie voyage, je pense que peut-être que ça fera un tri et que les personnes qui seront vraiment motivées, il y aura que ces personnes qui auront envie de le faire et les autres personnes qui ont peut-être des craintes ou pour qui le fait que la pandémie est ravivée, je sais pas, des craintes de l'étranger ou je ne sais quoi, peut-être que c'est ce qui va se passer et que du coup ça, il y aura peut-être un tri sélectif des personnes qui ont vraiment envie de faire ça et pas juste des gens qui ont cette idée qui est passée par la tête.
Ouais, et moi je pense que il y aura quand même un peu plus de peur pour les gens de partir et peut-être de devoir rentrer du jour au lendemain, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça arrive, comment ça arrive et ce qu'il faut faire. Mais d'un côté, cette peur, elle peut être hyper positive parce que ça peut te permettre de te dire bon bah si demain je dois rentrer en urgence, est-ce que j'ai les moyens financiers déjà? Clairement. Est-ce que j'ai mis assez de côté pour prévoir ce genre d'incident? Donc, je trouve ça aussi intéressant et en effet, je rejoins Ludo sur le côté tri des digital nomades, ceux qui ont vraiment envie de faire ça et ceux qui ont fait ça pour Instagram, quoi.
Ouais, parce que du coup, vous, j'imagine forcément que ça vous impacte. Vous le vivez comment à vous projeter, à vous dire pas savoir quand vous allez pouvoir repartir, savoir peut-être déjà vous avez peut-être pas envie de repartir direct, vous y avez réfléchi un peu? Comment vous le vivez?
Alors on y a forcément réfléchi parce qu'en fait on devait partir juste avant que ça arrive. On y a réfléchi mais on n'a pas les réponses parce que en effet on sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revoyager, on sait pas on a un peu du mal à savoir comment, quand est-ce qu'on pourra et si on pourra, en fait. Donc, là, on commençait à se poser des questions, de se dire peut-être que le plus simple, ce serait de commencer par l'Europe, mais quand? Voilà. Pour l'instant, on est dans le flou artistique. Hein.
et surtout aussi sur la partie style de vie, peut-être équilibre de vie, on avait écrit un mail aussi où on abordait le fait que ça va pas être une destination en fait ne doit pas impacter ton bonheur, ou en gros ça veut dire que si on était complètement malheureux le fait d'être en France et que juste avant, en gros, nous, on a annulé notre départ. C'était la veille. On devait partir le samedi à Bali et le vendredi, on a annulé. Et du coup, si on était en mode, ouais, on est trop malheureux, notre vie, c'est être à l'étranger, etc. Peut-être que là, ça l'aurait pas fait. Donc, du coup, je pense que c'est pas important de faire un peu ce travail sur soi en essayant de pas associer son bonheur à un endroit ou à un style de vie, d'avoir un peu des objectifs quotidiens qui te rendent heureux sans pour autant qu'ils soient dépendants de d'autres facteurs extérieurs. Donc c'est pour ça que je pense que le côté dont tu parlais tout à l'heure de digital nomade qui pourrait vivre chichement, etc., et qui peut-être que n'ont pas vraiment envie d'être freelance, mais qui font ça pour gagner quelques euros et au final pour vivre à l'étranger, bah du coup, s'ils se retrouvent dans une situation où ils sont confinés, où ils doivent retourner en France, etc., est-ce que du coup, eux, est-ce qu'ils seront heureux? Donc c'est ça aussi la question derrière, parce qu'en fait,
c'est pas
que gagner de l'argent, en fait, c'est ça le truc. Si tu gagnes pas beaucoup, mais que tu es très heureux, et franchement, c'est génial, mais en fait, c'est hyper important de trouver le moyen d'avoir un bonheur au quotidien, que tes journées en fait soient exceptionnelles tout le temps, et même si t'es enfermé dans un appart.
Ouais, c'est clair. Parce qu'au final, c'est intéressant parce que peut-être la quête première du digital nomadisme, c'est de se dire je ne veux pas être dépendant d'un lieu géographique pour travailler. Mais au final, ce que vous dites là, c'est que presque ça inverse le truc, dans le sens où tu deviens dépendant d'être dans un lieu géographique autre pour te sentir bien et être heureux, quoi. Donc, t'as traduit ta dépendance pour le travail à une dépendance pour le bonheur d'être sur une plage à Bali et quand tu reviens à Paris, tu détestes. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de voir ce switch-là, quoi. Et de se dire, au final, c'est quoi la raison derrière tout ça? C'est juste d'être heureux tous les jours. Et pour ça, il faut s'entraîner à faire plus que juste voyager, quoi.
Ouais, clairement.
Hyper intéressant. J'avais une dernière question à poser sur un truc dont tu as un petit peu parlé, Ludovic, c'est sur le télétravail. Effectivement, bien sûr, du coup, c'est l'aspect du nomadisme qui sera sûrement renforcé avec ce qu'on est en train de vivre, avec beaucoup de boîtes qui sont plongées un peu du jour au lendemain sans avoir, pour certaines, expérimenté même une seule fois le remote, en tout cas sur tous leurs employés. Et ce que vous me partagez en préparant l'épisode, c'est que pour vous, c'était un atout que les freelances avaient, dans le sens où on a déjà l'habitude de travailler en remote, on sait comment ça se passe, on sait quelles habitudes on prend, on sait comment le faire chez nous. Et je pense qu'effectivement, ça peut potentiellement devenir une compétence clé pour le futur du travail, dans le sens où même quand on recrute quelqu'un, on pourrait lui demander « Est-ce que tu télétravailles bien ? Est-ce que tu as de l'expérience avec ça ?» etc. Vous en pensez quoi sur ce point plus précis là ?
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que ce qui va se passer peut-être plus rapidement, moi, je pense que ça va être l'inverse. En fait, ce sera les candidats qui vont tester un peu l'entreprise sur le côté remote friendly, et je pense que moi, ça m'étonnerait pas de voir dans quelques temps des gens qui refusent un poste parce que en fait, t'as pas du télétravail.
C'est intéressant, ouais. En tout cas, on est plus ou moins d'accord pour dire que ça va prendre plus de place, quoi.
Ouais, clairement.
C'est clair.
Du coup, pour arriver sur les questions rituelles de fin de podcast, que je sais vous avez longuement préparées, ou pas, je ne sais pas. Mais la première, et je pense que ça va être matière à anecdote intéressante, c'est pour tous les deux, c'est quoi la plus grosse galère que vous avez vécue dans votre vie de freelance nomade, et comment vous avez fait pour la dépasser?
Ouais, moi ça a été de faire face plusieurs fois à des décalages de trésorerie et du coup de me retrouver sans argent. Donc ça c'était, je pense que c'était le plus compliqué. Mais au final à chaque fois ça a créé une sorte de feu sacré encore plus puissant, parce que c'est pas toujours marrant de se faire payer ses billets d'avion par Jeanne. Donc du coup, je me suis retrouvé à bosser vraiment énormément. En fait, quand je me suis retrouvé dans ces moments, c'est là où j'ai trouvé encore plus d'énergie pour vraiment bosser et au final, derrière, sortir le plus rapidement possible de cette situation. Donc, il y a un peu le côté résilient aussi. Il y a beaucoup de personnes qui disent que souvent, soit dans la vie de freelance ou d'entrepreneur, qu'ils ont connu un fait marquant qui les a fait switcher. Et moi, je pense que c'est ce moment où je me suis dit, bah ok, je suis à Bali, sinon j'ai un endroit incroyable, mais au final, si j'ai des problèmes de trésorerie et que mes clients mettent du temps à payer et que j'en ai pas d'autres pour subvenir, bah au final, est-ce que c'est viable? Donc du coup, ça pousse encore plus justement à pousser sur le côté. Bah, je recherche mes clients et je signe des clients.
Et du coup, juste avant que tu répondes, Jeanne, est-ce que vous pensez que ça a été une très bonne chose pour vous de partir à deux alors, plutôt que de partir seul?
Ouais, clairement. Clairement, je pense que tout seul, je sais pas.
Moi, je serais pas partie tout seul. Je serais encore à Paris tout seul.
Ouais. Bah, c'est clair que dans ces moments durs,
courage de partir tout seul.
Dans ces moments durs, ça peut être un soutien de dingue, surtout. Enfin, je sais que l'écosystème est nourri, quoi. Mais...
Psychologiquement, moi, c'était hyper important de partir à deux, dans le sens où je me disais, c'est notre force aussi de se dire, s'il y en a un qui galère, l'autre sera là pour l'aider. Si on galère tous les deux, on galère ensemble. Et si on y arrive tous les deux, on y arrive ensemble aussi. Mais c'était vraiment une force, et sans ça, j'aurais pas réussi à partir. Pas toute seule, en tout cas.
Et ta galère à toi, Jeanne, du coup?
Alors moi, ma galère est totalement différente. Moi, en fait, ce qui a été un peu compliqué, c'était les débuts où justement on est arrivé à Bali, et les premiers jours où il faut bosser, il faut savoir s'organiser. Et en fait, moi, je me suis retrouvée, on était à Canggu, qui est une ville où il y a énormément de digital nomades qui ont tous en effet plein de projets à la fois. Et en fait, moi, j'avais l'impression de pas avoir de projet. Je savais pas exactement ce que je voulais faire comme métier en tant que freelance. Je savais pas si je voulais continuer ce que je faisais en agence ou pas. Je savais pas si je voulais faire autre chose. Je savais pas ce que j'allais apporter de plus que tous ces gens qui faisaient déjà ça. Donc, je me suis posé beaucoup de questions, et je me suis retrouvée avec, entourée de freelance qui savaient exactement ce qu'ils faisaient, qui avaient leur petite journée organisée. Et moi, je me disais, mais est-ce que tu vas trouver un jour ce que tu veux faire ou pas? Donc, c'était ça ma plus grosse galère. Et comment j'ai réussi à la surmonter? C'est grâce à ma première cliente, où je me suis rendu compte des problèmes qu'elle avait et de ce que je pouvais lui apporter, et que j'ai commencé à bosser avec elle. Et je me suis dit, ok, c'est bon, je trouve ça génial et c'est ça que j'ai envie de faire. Forcément, les premiers, au départ, je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais en parlant avec elle, en fait, j'ai réussi à construire l'offre idéale pour moi, quoi.
Problématique psychologique aussi, de se voir face à tous les autres et de se dire, tout le monde a l'air trop avancé. Hyper intéressant. Merci.
Et puis en plus, Ludo avait déjà commencé à prospecter, à faire plein de choses. Donc, c'est vrai que moi, je me retrouvais à côté un peu à me dire, mais pourquoi toi, t'avances pas, quoi.
Trop bien, merci pour le partage. La question suivante, c'est: si vous étiez face à votre vous plus jeune, c'est votre tout premier jour en freelance, c'est quoi le conseil que vous vous donnez?
Clairement, pour moi, c'est être patient. C'est, je pense que c'est hyper important. Et en fait, quand tu te lances, tu te dis que t'as plein de chantiers, t'as envie de faire plein de trucs et t'as envie que ça aille vite. Mais en fait, il faut être patient. Moi, je m'étais dit, moi, au bout de 3 mois, j'en vis bien. Ça a mis 6 mois, mais 3 mois. Sauf que pendant les 6 mois, j'ai appris et j'ai été complètement une autre personne. Donc, il y a ce côté aussi... chemin et processus. Je pense que on n'aborde pas assez ces sujets, mais même si tu vas mettre peut-être 6 mois à en vivre bien, en fait, ça va pas être 6 mois où c'est horrible tous les jours. Tu vas apprendre plein de trucs, tu vas te remettre en question, tu vas te dire tes premiers messages de prospection et versus les messages que tu envoies au mois 6, ça aura rien à voir. T'auras vachement évolué en termes de mentalité, en termes de plein de choses. Et en fait, je pense que si tu kiffes le chemin, je pense que tu vas être obligé de kiffer le chemin, parce que sinon, je pense que tu vas pas y arriver. Et c'est aussi important que, ça peut paraître bateau, mais c'est aussi important que le résultat.
Et moi, ce serait de pas écouter les autres, de vraiment s'écouter soi et ses envies, ses besoins, pour avancer. Parce que les autres, ils sont pleins de peur et pleins de, il faut faire comme ça. Je sais que moi, aujourd'hui, si j'ai réussi à me créer l'offre idéale pour moi, en tout cas, c'est en m'écoutant, en prenant le temps de m'écouter, quoi. En prenant le temps de savoir ce que j'avais vraiment envie de besoin de faire, et pas en me speedant, en trouvant une offre pour être rentable au bout d'un mois, quoi.
Ouais, donc ce chemin d'introspection qui revient à chaque fois et qui est hyper important. Merci pour vos partages là-dessus aussi. Et ensuite, la dernière et sûrement ma question favorite, c'est que vous connaissez aussi, c'est: si vous avez chacun une question à poser à nos auditeurs, ça peut être sur le sujet dont on a discuté ou toute autre chose, mais une question pour qu'ils réfléchissent cette semaine à leur activité et leur vie de freelance. Quelle est cette question?
C'est moi qui commence, c'est ça?
Ouais.
Moi, ma question, ce serait... Alors, ça va être peut-être un peu trash.
On aime, vas-y.
C'est... Si tu mourais demain, si on t'annonce que tu meurs demain, est-ce que tu considères que tu as réussi ta vie?
Génial.
Voilà.
Merci, Jeanne.
C'est beau.
Et toi, Lito?
C'est un peu moins dramatique. Désolé. Mais c'est... est-ce que tu as hâte de te lever le matin? Ça, c'est un point qui est hyper important pour moi. De me dire, est-ce que quand je me couche, est-ce que j'ai le lendemain, je me dis, bah, j'ai trop hâte de passer cette journée.
Trop bien. Effectivement, c'est deux questions qui nous font bien réfléchir à est-ce qu'on est à la place où on veut être dans notre vie et est-ce qu'on fait ce qu'on a vraiment envie de faire, quoi. Donc, c'est cool de l'avoir sous deux axes différents. Un qui est... au final, qui parle tous les deux de demain matin, hein. Il y en a un où on crève et il y en a
ouais,
un où
clairement.
On est juste triste. Quoi.
Donc, du coup, si tu as hâte de mourir, ça fait un combo des deux.
C'est mon côté plus dramatique.
Trop bien, merci beaucoup. Où est-ce que j'envoie les gens qui veulent échanger avec vous, apprendre à devenir de meilleurs digitaux nomades? Nomades digitaux, pardon, pas digitaux nomades. Où est-ce qu'on peut venir vous parler?
Tu peux, pour voir, tu peux les envoyer sur YouTube.
Donc, okay.
Les marques Nomad Pass sur YouTube, c'est assez simple à trouver. Pour nous parler, ce sera plus sur Instagram,
okay.
Nomad-Pass. Vous pouvez nous écrire en DM et aussi sur notre site. Du coup, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter. On envoie tous les lundis ou un mail avec des ressources, des tips et des conseils pour aider les personnes dans leur carrière de travailleur à distance. Et du coup, on a le lien qui est sur notre site.
Génial. Bon, ben merci beaucoup pour cette merveilleuse discussion. C'était chouette. Je suis bien content.
Ben, merci. Cool. Merci à toi.
Ouais.
Et à bientôt sur le podcast. Ciao.
Salut.
Salut.
J'espère que cet échange vous a plu et surtout qu'il vous a éclairé sur la réalité de ce que ça peut représenter une vie de freelance nomade. Et du coup, j'imagine que certains d'entre vous, ça vous aide à vous questionner aussi sur est-ce que c'est un mode de vie qui peut m'aller, est-ce que c'est une expérimentation que j'ai envie de faire. Moi, personnellement, je pense que ça arrivera forcément un jour sur une période plus longue que les simples workans de une ou deux semaines que j'ai pu déjà faire. Et du coup, de mon côté, cette discussion, elle m'a permis de me rendre compte que finalement, les freelance nomades, les digital nomades, traversent des questionnements assez similaires sur beaucoup de points à ces freelances qui restent entre guillemets à domicile, notamment sur le syndrome de l'imposteur, enfin ces discussions qu'on a eues avec Jen. Et j'ai particulièrement apprécié aussi le fait qu'on ait creusé ce sujet du besoin d'équilibre qui peut être encore plus présent quand notre environnement change constamment, quand on rencontre tout le temps de nouvelles personnes et qu'on doit dire au revoir. Enfin, tous ces changements constants, je vois qu'effectivement le besoin d'équilibre peut être très présent, donc je comprends aisément les réflexions futures de Jeanne et Ludovic sur le sujet. Bon, sur ce, je te dis à demain, parce que demain il y aura une petite célébration pour l'anniversaire du podcast, mais sinon je te souhaite également une merveilleuse semaine, et je te dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye.